Merci mon frère. C'est bon de savoir que Luc préside. Je me sens pousser des ailes. Vous allez bien?
Oui.
Alors Farid nous a préparé le terrain, m'a surtout préparé le terrain avec la semaine passée une prédication sur Jean. Il a eu la lourde charge de faire 14, 15, 16, plus un petit bout de Rocky. Et aujourd'hui, donc, moi, je ne vais pas vous proposer la suite de Rocky, mais je vais vous proposer de vous plonger, de nous plonger dans Jean 17. Et pour vous donner le cadre un petit peu, on est toujours au même endroit. On se trouve dans la chambre haute. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, donc on l'a traversé tout au long de Jean. Il a pris le dernier repas. Et voilà maintenant le passage très fort de la prière sacerdotale. Donc, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais en tout cas, on va vraiment s'intéresser à ça ce matin. Et ce moment se caractérise vraiment par un temps très solennel avec ses disciples. Et Jésus est en fait finalement tout simplement en train de passer ses derniers instants avec ses disciples, juste avant son arrestation et sa crucifixion. Alors, vous inquiétez pas, comme disait Luc, pour ceux qui n'ont pas lu, parce que je vais relire cette prière que vous avez normalement derrière. Okay. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée de faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et que tout ce qui est à moi est à toi, et que tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour que tu m'as donné soit en eux, et que moi je sois en eux. Waouh. Est-ce qu'on peut comprendre cette prière juste en une lecture? Impossible. Impossible. C'est puissant. Ce moment est vraiment très puissant. Et je voudrais, à travers quatre points, me plonger dans cette prière. Et le premier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est connaître Dieu. Verset 3, on lit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous savez que j'aime bien chercher les définitions, donc j'ai été chercher la définition de connaître. Et connaître, selon Larousse, c'est pouvoir identifier quelqu'un, le reconnaître, avoir appris son nom, entrer en contact, faire sa connaissance, pardon, être au courant de quelque chose, le savoir et pouvoir en parler. Ça, c'est la définition de connaître. Mais dans la Bible, on a une toute autre définition. Le mot connaître est utilisé, et il y a tout un tas de versets, mais on va en prendre un particulièrement. Dans Genèse 4, 1, l'homme connut Ève, sa femme. Et là, ici, connaître, ça veut dire avoir une relation intime. Ça veut dire avoir une proximité, vivre quelque chose de profond. C'est aussi découvrir. C'est épouser. Et on voit ici que la connaissance va bien au-delà de la définition du Larousse. La connaissance intègre ici l'amour et l'engagement. Connaître l'autre implique d'aimer l'autre. Connaître l'autre implique un engagement. Connaître l'autre implique de passer du temps avec. Connaître l'autre implique de partager des choses, des belles, des moins belles, des durs parfois. Et connaître l'autre implique d'être présent et d'écouter. Pour ceux qui étaient là mi-janvier, quand j'ai prêché sur Jean 11 et sur la résurrection de Lazare, vous devez vous souvenir que j'ai beaucoup insisté sur les deux sœurs, Marthe et Marie, et sur cette relation qu'elles avaient toutes les deux avec Dieu, avec Jésus, pardon. Vous vous rappelez, il y en avait une qui s'affairait à peu de choses, elle s'affairait au fourneau. Elle était active, très active. Et puis on avait l'autre qui était au pied de Jésus, qui écoutait ses enseignements, qui était au pied de Jésus à pleurer. Et la question que je vous avais posée à l'époque, c'était: quelle relation nous on a avec Dieu? Est-ce qu'on a une relation de Marthe ou est-ce qu'on a une relation de Marie? Et je reviens dessus, et quand on parcourt la parole, on lit que Jésus connaissait le Père. Il avait une vraie relation intime avec lui. Il avait l'habitude de se retirer. On le lit dans Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Ou encore dans Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Jésus prenait des vrais temps à part avec le Père. C'était une habitude qu'il avait. Il se retirait seul dans un lieu isolé de toute distraction. Il puisait sa force dans les temps qu'il passait avec Dieu. Et on va le voir la semaine prochaine avec Luc qui va nous parler du jardin de Gethsémané, encore un moment qui va passer dans la présence de Dieu. Dans les débuts de notre relation avec Francesca, je fais comme Farid, j'en profite, elle n'est pas là. On a appris à se connaître et pendant plusieurs mois, on s'est engagés tous les deux à prendre du temps l'un avec l'autre. On voulait en savoir plus l'un sur l'autre. On s'aimait bien, donc on a commencé à partager des choses, on a commencé à prendre du temps, on a commencé à prier ensemble, mais on a aussi commencé à s'écouter l'un l'autre. Et on a essayé de voir et de comprendre si on allait marcher et si on marchait dans la même direction. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 8 ans qu'on est ensemble. On est des bébés. Mais on continue. Et on continue à se découvrir jour après jour, à se servir l'un l'autre, à s'aimer, à se parler, à s'écouter, à passer du temps ensemble. Mais est-ce que vous pensez que cette relation serait la même? Si je prenais pas le temps nécessaire pour prendre soin de ma relation. Est-ce que la relation serait la même si je ne prenais pas le temps pour prendre soin de mon mariage? Si je venais voir Francesca de temps en temps, rapidement, simplement en lui disant, bah tiens, est-ce que tu peux me rendre ce service? Mais là, je n'ai pas trop le temps de passer du temps avec toi. J'ai pas trop le temps de te parler. J'ai une série à regarder. J'ai pas trop le temps de te parler parce qu'en fait, mon boulot me prend toute ma journée. Ou encore si je lui disais, ah, comme j'aimerais plus de toi dans ma vie. Ah, comme j'aimerais te connaître tellement plus. Ah, je désire te voir. Je désire être dans ta présence. Je veux en savoir plus sur toi. Je désire une relation intime avec toi. Je désire quelque chose de fort avec toi. Ou même si je lui disais, je désire t'entendre de façon audible. Qu'est-ce qu'elle me dirait? Ben, je suis là. Je suis là. Et à juste titre, on est mariés. Et je sais qu'elle sera là jusqu'à la fin de mes jours. Et en fait, c'est pareil avec Dieu. Dieu est à nos côtés. Et on a un accès libre à lui, grâce à Jésus qui a donné sa vie pour nous. Mais on est là et on dit, oui, Seigneur, je désire plus de toi. Je veux voir plus de fruits dans ma vie. Je veux savoir dans quelle direction tu veux que j'aille. Je veux t'entendre. Mais en fait, on n'arrête pas de parler. Et qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de notre relation, justement? Qu'est-ce qu'on fait pour faire grandir cette intimité? Qu'est-ce qu'on fait pour faire grandir cette connaissance de Christ? Une petite histoire à vous raconter. Je suis quelqu'un d'assez actif pour ceux qui me connaissent et j'aime entreprendre pas mal de choses, le boulot, le sport, le bricolage, etc., etc. Et je me rappelle d'une fois il y a plusieurs années, ça n'allait pas fort. Et Francesca me demande, c'est quand la dernière fois que tu as prié? Sous-entendu, c'est quand la dernière fois que tu as passé un vrai temps dans la présence de Dieu? J'ai répondu comme d'habitude. Ouais, mais là en ce moment, j'ai beaucoup de choses et j'ai pas le temps. Sa réponse, elle a été simple. C'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps. Boum. Ça vous parle ou pas? Ce jour-là, j'ai compris que c'était vraiment la femme qu'il me fallait. Non, sans rire, ce jour-là, en entendant sa réponse, j'ai compris que c'était pas Francesca qui parlait, mais que c'était Dieu qui était en train de me parler. Et on a besoin d'entendre ça, en fait. Prenons-nous ces temps. Avons-nous ces temps à part comme Jésus les avait avec son Père? Sommes-nous assez intentionnels dans notre relation avec lui? Est-ce que quand je me réveille le matin, je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle journée, pour le souffle qu'il me donne, pour ce cœur qui va battre plus de 100 000 fois dans la journée? Pour ma maison, pour mon travail, pour mes amis, pour ma famille, pour toutes ces choses-là? Ou bien, est-ce que je prends ça pour acquis et je commence ma journée à voir ce qui s'est passé dans le monde, à scroller parce que j'ai loupé toute une nuit de réseaux sociaux? On a des vies à 200 à l'heure et on a le boulot, les enfants, les entraînements, les devoirs, l'anniversaire de mamie, les réunions, les factures, les tracas qui vont avec. On a toutes ces choses-là. Et puis on a aussi ça. On a le téléphone qui sonne, puis les notifications, puis les appels. Et je suis OK avec cette réalité, mais c'est à nous de fixer les limites. C'est à nous de prioriser, c'est à nous de supprimer certaines choses si nécessaire. Parce que c'est à nous de mettre à part ces temps précieux que Dieu veut avec nous. Est-ce que mon Dieu est un Dieu du dimanche matin de 10h à midi? Est-ce que mon Dieu est celui que je viens trouver que quand j'ai besoin? C'est une vraie question que je vous pose. Matthieu 7, verset 21. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Wow. Et quand je préparais, je lisais ce commentaire. Ce ne sont pas les déclarations ou le fait de ressentir une intimité qui importe, ni le fait d'accomplir des œuvres miraculeuses au nom de Jésus. Parce que même Judas a fait ça. Ce qui importe, c'est une obéissance sincère à la volonté du Père, découlant de la foi. Une intimité réelle avec le Père signifie connaître Dieu et être connu de lui. Et la semaine dernière, Farid nous a encouragés à demeurer en Dieu, à demeurer dans son amour. Et il nous a encouragés aussi à demander de l'aide au Saint-Esprit afin qu'il nous conduise à la vérité. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je vais répéter, c'est trop silencieux. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Ok, point numéro 2. T'as dit quoi ? La mission. Verset 4. Ça va toujours ? Ok. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Ça tombe bien, on parlait de Joseph juste avant. Jean 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus est venu sur terre comme un simple homme, prenant la forme d'un serviteur. Il a vécu 33 ans avec une seule mission. Faire la volonté de Dieu. Et on le lit dans Jean 17 au verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Jean 17, verset 8. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jésus est venu sur terre pour révéler le Père. Il est venu dans un monde qui était dans les ténèbres pour faire jaillir la lumière. Et il est venu pour que ceux qui croient connaissent, le connaissent et connaissent aussi le Père. Jean 14, 7. Si vous me connaissiez, connaîtriez mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il est venu avec une mission, faire la volonté du Père. Mais il est aussi venu condamner le péché. Il est venu ôter le péché du monde et il est venu bâtir son église. Avec l'aide de Dieu, il a choisi ses disciples, il les a formés pendant 3 ans et demi. Et puis ensuite, il les a envoyés proclamer le message, ce même message que lui, il avait proclamé. Il est venu, il les a envoyés baptiser ceux qui répondraient à ce message avec foi et repentance. Et il les a aussi envoyés enseigner toutes les choses que Jésus leur avait enseignées. Matthieu 28, 19, 20. Vous connaissez ce verset. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et on en a parlé justement avec Joseph. Paul dira dans 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul utilise le même terme que Jésus quand il dit « J'ai achevé l'œuvre. » Et c'est ce que Jésus nous dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » Et c'est la même chose pour nous. On le lit un petit peu plus loin dans Jean 17, verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Envoyés dans le monde pour faire quoi ? Pour bosser ? Non. Pour avoir notre best life ? Pour profiter ? Non. pour faire de toutes les nations des disciples. Telle est la volonté de notre Père pour nous sur terre. Et quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a le même nom de famille que moi et qui est un petit peu plus vieux que moi, dit « Je m'arrête pas parce que je suis fatigué, je m'arrête parce que j'ai terminé. » C'est fort. Alors je me demande, où en sommes-nous dans cette course ? Est-ce que nous sommes fatigués ? Ou est-ce qu'on veut tout simplement s'arrêter ? Faites des nations des disciples. Baptisez-les, enseignez-les. Et en tant qu'ancien policier et militaire, j'ai l'habitude de recevoir des ordres de mission. Mais je ne sais pas pour vous, mais quand je vois ce genre de mission, je me dis que je ne suis pas prêt d'avoir terminé. Continuons cette œuvre pour laquelle Dieu nous appelle. Allons puiser notre force dans la parole de Dieu. Avançons dans cette intimité, dans cette relation intime avec Dieu. Et gardons la foi comme Paul et tant d'autres, comme Joseph a gardé jusqu'au bout. Point numéro 3, Jésus prie pour les élus. Verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Dieu a déjà choisi ses disciples. Et Anto nous l'a rappelé, Dieu avait déjà choisi d'envoyer Jésus avant la création du monde. Et ici, Jésus prie pour eux, il prie pour nous. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. On peut le lire aussi dans Jérémie 1, verset 5. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Wow. Jean 10, verset 14. Je connais mes brebis, message de Pierre, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Vous connaissez ce chant ? L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. J'aime beaucoup ce chant qui me rappelle que, oui, je suis né en 86 dans un petit village en Normandie. Mais depuis la création du monde, le Père m'avait déjà dans ses projets. Et ses projets, c'était quoi ? Faire son œuvre, faire sa volonté. Être là ce matin et vous apporter cette parole. C'est beau. Et le Père te connaît, et le Père t'aime, et le Père vous aime. Et il vous avait déjà prévu, il vous avait déjà en projet. Il savait déjà ce qu'il ferait avec vous, là où il vous amènerait. Les personnes qu'il mettrait à vos côtés, l'église que vous fréquenterez. Verset 11, Père Saint, garde-les en ton nom. Garde-les en ton nom. Verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Dans ce passage, Jésus intercède pour nous auprès de Dieu. Et il rajoute au verset 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Ici, Jésus n'est pas en train de prier pour notre bien-être, mais pour notre sanctification, pour qu'on soit mis à part pour Dieu, sanctifié et consacré pour cette mission qu'il nous a donnée. Et plus fort, il ne prie pas pour qu'on soit retiré du monde, mais pour qu'on soit fort dans ce monde. Que nous puissions avoir cette mentalité à part, ces comportements à part, que nous puissions tout simplement nager à contre-courant. Vous avez vu l'image de Chosen, la série, vous avez tous ces poissons qui vont vers le haut et puis vous avez l'autre poisson qui va dans la direction opposée. C'est ça que Dieu veut. Il le dit à deux reprises dans Jean 17. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et mes amis, dans ce monde de ténèbres, brillons comme des flambeaux. Faisons une différence là où nous sommes par notre façon de penser, par nos actes, par notre amour. Parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place ? Dans nos familles, au travail, au lycée, dans notre association, pendant un barbecue chez le voisin, osons briller, osons témoigner de l'amour de Dieu et osons faire la différence. Matthieu 5, versets 14 et 15. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour que tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière brille ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Numéro 4 et dernier. L'unité. Verset 21, dans Jean 17, il dit « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es un. Non, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » J'ai souligné que tous soient un. On parle de cette unité horizontale, cette unité entre nous ici. Jésus parle de cette unité qu'on devrait avoir entre nous. Et c'est une répétition du verset 19. Et dans ce chapitre 17, il y a beaucoup de répétitions. Et on comprend que quand Jésus répète, c'est qu'il veut que ça rentre. C'est une confirmation. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Est-ce qu'on est unis dans l'Église ? Est-ce que vous trouvez qu'on est unis dans l'Église ? Ou est-ce qu'on est unis avec les églises d'à côté ? Je parle de la vraie unité, l'unité d'amour. Est-ce que vous ne trouvez pas que de tout temps, et particulièrement aujourd'hui, les divisions et les discordes chez les chrétiens viennent ternir le témoignage de Jésus ? Parlez de Jésus à quelqu'un dans la rue. Demandez-lui ce qu'il en pense. Il va vous parler de l'Église et des problèmes qu'il y a eu avec l'Église et des chrétiens qui ne s'entendent pas entre eux. Et la Bible est pourtant claire, 1 Corinthiens 10 à 13. Paul dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Ou encore juste après, 1 Corinthiens 12, versets 25-27. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. On parle des œuvres de la chair, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les hostilités, la discorde, la jalousie, les fureurs, les rivalités, les divisions, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et toutes les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et que dit Jésus ? Jean 13, 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. La suite, elle est super intéressante. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, notre unité d'amour est un vrai impact dans le monde. Regardez autour de vous, les gens n'ont plus l'habitude de voir cet amour. Vous laissez quelqu'un traverser, il vous fait un sourire, vous aidez quelqu'un à mettre sa valise quelque part, ils ne comprennent pas pourquoi on est comme ça. Ils trouvent qu'il y a quelque chose de bizarre. Non, c'est simplement qu'on les aime. Il n'y a plus d'entraide. Il n'y a plus ou peu de considération pour l'autre, sauf si derrière il y a un intérêt. Et le monde ne va pas aller en s'arrangeant. Et c'est là que nous devons être unis. Et c'est là que nous devons faire la différence. Notre unité montre au monde que nous sommes tous d'accord sur la vérité de Dieu. Et dans ce passage que j'ai lu, Jésus parle de cette unité horizontale, mais il parle aussi de cette unité verticale qu'il a, lui, avec le Père, et que Jésus a avec nous. Et tout ça, c'est lié. Et Jésus dit que nous devons avoir cette unité, cette même unité que lui a avec le Père. Nous devons l'avoir, nous, entre nous, et nous devons l'avoir, nous, avec lui. Pourquoi ? Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est ça le pourquoi. Vous connaissez Jean 3,16 ? C'est pas une question du coup. Vous connaissez Jean 3,16. Et pour ceux qui ne connaissent pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Mais c'est quoi la vie éternelle ? On revient tout au début du chapitre 17, au verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » J'aimerais finir en vous disant juste trois rappels. Connaître Dieu, c'est essentiel. C'est fondamental. Et je nous invite vraiment à prendre le temps qu'il faut pour faire grandir cette relation avec Dieu. Ne nous contentons pas d'une relation à la surface. Soyons intentionnels. Posons des actes concrets qui nous amèneront dans une autre dimension, dans cette intimité. Plongeons-nous dans la parole. Plongeons-nous dans des temps vraiment privilégiés, des temps de silence. Où on demande simplement à Dieu, « Seigneur, révèle-toi à moi, j'ai besoin de savoir dans telle ou telle situation où est-ce que tu veux m'amener. » Comme le verset le dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Trouvez un endroit dans votre maison, trouvez un endroit, trouvez quelque part où vous savez que vous avez votre chambre haute, vous avez cet endroit qui est vraiment privilégié pour que le Père se révèle à vous. Dieu nous connaît, et ce, depuis la création du monde. Il nous a choisis, et il sait là où il veut nous amener. Il connaît chacun de ses enfants. Alors écoutons-le, et surtout faisons-lui confiance, parce que nous avons une œuvre à achever pour sa gloire. Comme Jésus, comme Paul, comme Joseph, et comme tous ceux qui sont dans la parole, et tous ceux qui nous ont précédés. Faisons-lui confiance. Et puis finalement, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu nous appelle à nager à contre-courant. Alors, avec assurance et avec l'autorité que Dieu nous donne aujourd'hui, osons faire la différence et ne craignons pas d'aller dans ce monde. Mais soyons des vrais témoignages de Christ. Soyons des lumières, aimons-nous les uns les autres, aimons les autres, parce que c'est ce que Jésus nous appelle à faire. Et par-dessus tout, dans ce monde d'aujourd'hui, en 2025, surprenons tous ceux qui pensent que ça n'existe plus. Allons apporter la parole, allons prier, Allons prendre un ami dans nos bras. Soyez bénis.